Seconde table ronde. L'entreprise, pilier de la société.
Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième table ronde sur l'entreprise pilier de la société. C'est au sein de ce colloque éthique sur l'affect, hein, quelle place dans l'affect, pour l'affect dans la société. Ça tombe bien, on a des invités qui nous rejoignent, on va faire le tour dans un instant. On sera en compagnie de Natacha Pouget. Bonjour Natacha.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes senior manager des engagements extérieurs chez Philippe Maurice.
Absolument.
Philippe Maurice, France SAS, on est ravis de vous accueillir pour un thème très intéressant. Toutes les entreprises peuvent-elles servir le bien commun ? Et quand on s'appelle Philippe Maurice, alias Marlboro ou les cigarettiers...
Effectivement, c'est une question un peu piquante.
Voilà, je vous remercie d'être là pour affronter toutes nos questions. Elle nous a rejoint, elle est juste à côté de vous, Sophie de Menton. Merci Sophie de nous rejoindre pour participer à ce débat et qui a bien démarré depuis ce matin. Luc Ferry en introduction, une première table ronde qu'on vous invite évidemment à retrouver en podcast vers une entreprise Club Vacances sur les antennes de Radio Immo, Radio Territoria et Cowork, la radio. De l'autre côté de la table, nous aurons deux hommes. Hervé Le Seine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésident de l'association Grignon 2026. On va tout savoir justement sur ce qui se passe au domaine de Grignon. Et vous allez nous parler du mal-être agricole. Où est-ce qu'on en est et comment on prend ce sujet à bras-le-corps. À vos côtés, Frédéric Fougera. Bienvenue, Frédéric.
Bonjour, Fabrice.
Vous êtes expert en communication, auteur du Dico de la com. La com est un métier. Un dire com n'est pas un démocrate. Mais... vous vous intéressez aussi au management avec ce nouvel ouvrage « Le goût des autres, mes recettes de manager ». Avec vous, on va voir effectivement la place des relations humaines dans l'entreprise et leur évolution dans le temps. Vaste sujet. On démarre tout de suite avec vous, Natacha. Voilà, je trouve cette question passionnante. Toutes les entreprises peuvent-elles servir le bien commun ? En tout cas, on a le sentiment que si on ne sert plus le bien commun aujourd'hui, point de salut. Déjà, on ne peut plus recruter. Comment on fait quand on s'appelle Philippe Maurice et que la société, on a quand même tous en tête, pour les fumeurs comme les non-fumeurs désormais, ces paquets de cigarettes qui sont assez apocalyptiques au niveau des images qu'on montre. C'est un business, bon, on connaît tous l'histoire, qui est en train de se transformer en tout cas.
Absolument. Donc chez nous, le bien commun, on l'envisage de deux manières. D'abord parce que vous produisez. Donc là, c'est un peu la vision saint-simonienne. Le progrès passe par ce que vous délivrez à la société. Et donc nous, on y répond par l'innovation. On est conscient de la nocivité de nos produits historiques. On est le leader privé du marché des cigarettes. Cette nocivité est avérée. Donc on a investi 9 milliards de dollars dans des nouveaux produits à nocivité réduite. En France, on connaît très bien la cigarette électronique. Mmh. Mais nous avons essentiellement investi dans le tabac chauffé, donc qui est une technologie qui permet aux fumeurs qui n'arrivent pas d'arrêter de fumer de passer à une autre consommation nicotinique moins dangereuse. Donc nous, on adresse d'abord ce point de la nocivité, donc en servant le bien commun, en adressant la question de la santé, et aussi... On arrive à recruter en créant des droits et des devoirs pour nos salariés. On est une grande entreprise, on peut avoir une vision, la porter et la décliner sur le marché. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, on permet depuis 2021 aux nouveaux parents... d'avoir bien sûr un congé maternité, mais au deuxième parent, on offre 8 semaines de congé. Donc là, on a un impact double sur la parentalité, puisqu'on permet à nos salariés d'avoir une vie de famille plus riche, mais aussi on agit sur la société, puisqu'on a introduit la notion de deuxième parent, donc indifféremment du genre. Et donc, cette vision, on la porte en France. Mais on l'apporte dans 90 pays du monde. Donc, vous voyez, là aussi, notre...
Je reviens sur le corps. Si vous permettez, je voudrais quand même aussi réagir sur le fait d'entreprises taboues, mal vues, etc. Je pense que ou quelque chose est complètement interdit, ou ça existe, ou on paie des impôts. Combien d'impôts vous payez par an en France ?
L'industrie du tabac a versé 16 milliards d'euros en 2021 aux caisses de l'État. Et donc, 16 milliards en d'euros, tant que premier acteur.
Et donc, ce que, là, je m'élève un peu contre quelque chose. Ce n'est pas l'entreprise qui conditionne vraiment les comportements. Si on va par là, le sucre est horriblement malsain pour la santé. Y a de, on met des voitures. L'alcool, n'en
armes.
Parlons pas. Oui, donc... voilà, ce qui est très important, c'est ce que vous disiez, c'est ce que fait l'entreprise, ce, sur quoi elle essaie de trouver des substitutions et un facteur de progrès, parce qu'elle trouvait des... voilà, et par rapport à la convivialité, c'est intéressant, dans la mesure où, là, on s'en est rendu compte, c'était un terrible facteur, je dis terrible, facteur de convivialité que de fumer dans l'entreprise. Les gens allaient se retrouver. Après, il y avait les coins fumeurs. Ensuite, ils ont été dehors, etc. Donc ça aussi, c'est une forme d'addiction, entre guillemets, mais qu'il faut compenser. Et est-ce que vous avez pensé à ça?
Alors, effectivement, il y a toute une société...
Non, on fume au bureau, du coup. Hein.
Interdit.
Alors, on voit des gens qui vapotent.
Non, ah, qui vapotent,
ouais.
Je sais pas ça.
On les voit dans les bureaux. Non, vous voyez pas ça. On peut en voir dans des réunions. Là, les gens, maintenant, peuvent fumer à l'intérieur.
Alors ça, je ne savais pas, cela dit, d'abord, il y a une différence.
Alors, pas fumer les cigarettes, ça,
qui,
plus,
quand
enfin,
pas
sauf dans certains bars où, c'est, bon, c'est, où il faut aller dans d'autres pays. Non, je suis d'accord avec vous, mais je reviens sur le côté de nocivité. On sait quand même que...
Important, vapotage, c'est autorisé ou pas dans l'entreprise?
Donc, pas dans les lieux collectifs, si vous êtes seul...
dans votre bureau.
Ah, voilà. Très bien. J'en vois certains qui vont se reconnaître dans cette entreprise qui fume de temps en temps en réunion. Non, je reviens sur la question de la nocivité. Je trouve que c'est très bien déjà de l'accepter parce qu'on sait que des milliards ont été investis aussi en lobby pour contrer cette idée que c'était nocif. Donc déjà, désormais en 2022, même un petit peu avant, c'est acté. Et maintenant, finalement, vous voulez pas contrer les effets parce qu'il y aura toujours peut-être, vous dites, des fumeurs, mais du moins leur proposer une alternative.
En France, aujourd'hui, on a 11 millions de fumeurs. Ils sont...
Réguliers, occasionnels
quotidiens.
Quotidien.
Et sans ça, 13 millions de fumeurs quotidiens et occasionnels. Aujourd'hui, ces consommateurs sont exposés à des messages sanitaires. Hein, plus personne n'ignore aujourd'hui la nocivité et la dangerosité de l'acte de fumer. Ils sont contraints dans leur lieu de consommation. Vous évoquiez les bureaux, les lieux collectifs. Malgré tout ça, ces gens fument. Et donc, aujourd'hui, la vraie question est, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Soit on les laisse dans leur consommation délétère, soit on considère qu'il faut les accompagner dans autre chose. Et donc, c'est cette réflexion qu'on a menée, comment traiter ces 11 millions de personnes. Et donc, aujourd'hui, on arrive à les sortir de la cigarette. Dans le monde, en 2021, il y a eu 17 millions de consommateurs qui sont sortis de la cigarette grâce à ces nouveaux produits. Et dans les pays dans lesquels on a une antériorité suffisante pour voir les cohortes de malades, on a constaté par exemple au Japon, où cette technologie est très bien implantée et représente aujourd'hui 25% des anciens fumeurs, on a... aujourd'hui, une baisse des hospitalisations pour les maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Donc là, on arrive de manière très objective à voir l'impact sur la santé publique. D'accord. Et donc sur le bien commun.
Une question tout de suite pour Frédéric Fougera, qui est expert en communication. Quand vous entendez ce discours, là je m'adresse aux professionnels, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah je le trouve excellent, je suis complètement d'accord avec ce que disait Sophie, il y a une forme d'hypocrisie dans notre pays, dans nos pays, où on autorise, on ne sait ni interdire ni autoriser, donc on autorise en critiquant, on n'interdit pas en autorisant, donc voilà, on est dans le cadre d'une activité qui exerce légalement ses activités, qui essaye de progresser, d'évoluer, c'est le propre de la RSE, c'est de faire des progrès, c'est pas de toujours être parfait. Ben là, on est dans le cadre d'une société qui est consciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit et qui essaye de faire mieux, de progresser, d'évoluer. Il y a des gens à satisfaire, il y a des intérêts économiques, il y a des gens qui travaillent, il y a des fournisseurs, il y a un écosystème et des parties prenantes qui sont extrêmement nombreuses. Voilà, je trouve que l'approche est intéressante et intelligente, si je peux me permettre.
Une dernière question par rapport justement à ce que vous disiez, ce changement hein, aussi de paradigme et de chez Philippe Maurice. Est-ce que ça veut dire que dans les pays finalement où il y a moins peut-être de contraintes, c'est une démarche que vous faites également?
Donc aujourd'hui,
pensons aux gros fumeurs comme en Chine ou dans des pays dits émergents.
Alors en Chine, c'est un marché très particulier puisque c'est le monopole d'État qui contrôle la vente de cigarettes. Donc nous, on n'est pas présent en Chine. En Inde également, c'est un monopole d'État. Mais donc, si vous voulez prendre un pays à grande emprise, c'est par exemple l'Indonésie.
Oui.
Effectivement, dans ces pays, on s'est engagé auprès de nos communautés à ce qu'il y ait autant de ventes de produits à nocivité réduite dans les pays émergents hors OCDE que dans les pays OCDE, justement pour éviter qu'il y ait un système à deux vitesses avec les pays émergents qui arrivent à gérer la question du tabagisme, les pays développés qui arrivent à gérer,
et qu'on laisse finalement les autres.
Les autres qui soient les oubliés de l'histoire.
Qu'est-ce que ça veut dire la nocivité réduite?
Donc en fait, quand vous allumez une cigarette...
Ouais.
Vous avez des composés toxiques qui sont issus de la combustion.
Mm-hmm.
Donc, il n'y a plus de combustion. Donc, vous chauffez du tabac.
Oui.
Donc, vous n'avez plus autant de composés toxiques.
D'accord.
Ils sont réduits d'à peu près 90%.
D'accord.
Voilà. Mais... Vous êtes fumeuse, Sophie ? Vous avez arrêté ?
Alors, justement, j'en parlais. Je fume à peu près une cigarette par jour ou tous les deux jours.
D'accord. Bon.
Mais il paraît... Justement, on vient de me dire que c'était quand même... Oui, je fume la moitié d'une cigarette avec une tasse de thé tous les jours ou tous les deux jours. Alors, j'ai l'impression que c'est pas nocif, mais il paraît que j'ai tort. C'est Philippe Maurice qui m'a dit.
Je vous le confirme.
Qui m'a dit que même une, c'était pas bien.
Alors, quelle est l'alternative à nocivité réduite, Natacha?
Ah bah c'est
qu'est-ce
ça,
que vous recommandez à...
Il faut qu'elle passe sur quoi? Sur quel... Il suffit que j'arrête.
Il y a rien de mieux qu'arrêter.
Alors arrêter, première chose. Et si on peut pas, ou si on n'a pas envie, ou si on va vers une transition douce...
Avaler le tabac, ça veut dire quelque chose?
J'avale le tabac, c'est pas très
avaler.
Bon ça.
Parce qu'il avaler
la cigarette?
Oui, oui.
La fumée,
oui.
C'est un débat sur la cigarette ou...
Oui, pardon. Non, mais c'était... Vous avez tout à fait... On est loin du sujet, on va y revenir. Mais c'est important parce que ça a été un élément de convivialité incroyable dans les boîtes. Incroyable.
Oui,
moi, je sais, j'ai vécu l'entreprise, j'ai interdit de fumer dans mon entreprise. Je l'ai fait avant que ce soit obligatoire. J'ai vu ce que c'était difficile avec des jeunes qui étaient au téléphone dans les centres d'appel. J'ai vu l'agressivité que ça pouvait déclencher, etc. Donc, on est là. Quelle place de l'affect? C'était aussi l'affect. Les gens se retrouvent dehors aujourd'hui quand ils vont fumer une cigarette. On s'est aperçu qu'ils discutaient de sujets, etc. Donc, on va clore le sujet. Mais c'était assez important.
Oui, et c'était bien d'avoir votre témoignage. Voilà, attention. On avance justement. Hervé Le Sen est avec nous, co-président de l'association Grignon 2026. Parlez-nous justement de cette association et de son origine.
Alors, l'école d'ingénieurs agro-paritech, donc, qui forme des ingénieurs agronomes depuis deux siècles, donc, ferme son site de Grignon, qui est situé près de Versailles, qui est un site formidable de 300 hectares, où il y a une forêt magnifique, il y a des amphithéâtres, un château, etc. Et il voulait donc le vendre à des promoteurs immobiliers. Donc on s'est regroupé en association pour défendre un autre projet, un projet de création d'un grand campus dédié à la transition écologique et alimentaire. Donc d'être un lieu de rencontre à une demi-heure de Paris de tous les acteurs des différentes filières concernées par la transition écologique.
Et du coup, vous avez eu gain de cause, finalement.
Voilà, donc on va créer ce campus formidable où on associe à la fois donc, des entreprises. Donc on a le soutien d'une centaine d'entreprises qui sont des grandes entreprises de l'agroalimentaire, mais pas que, de l'énergie, de la transition écologique. Donc on a le soutien, par exemple, du groupe Invivo, donc, qui est le premier groupe coopératif français, qui est un groupe qui pèse 10 milliards de chiffre d'affaires. On a le soutien, par exemple, de Terre Innovera, qui est le grand centre professionnel de la filière oléagineux, qui est déjà installé à Grignon, plus un certain nombre d'autres entreprises, comme Eurofins, par exemple, Danone, etc. Donc l'idée, c'est d'associer donc, des entreprises avec la création donc, de colloques, de rencontres, de séminaires de direction. Donc on travaille avec le groupe Sodexo, pour la partie restauration, hôtellerie. Un incubateur de start-up lié à la ferme expérimentale de Grignon, qui est une ferme de 500 hectares qui est juste à côté du domaine de Grignon. Des laboratoires de recherche et surtout, à terme, une cité de la connaissance pour faire découvrir donc aux 12 millions de franciliens et peut-être au-delà, ce qu'est l'agriculture et l'industrie agroalimentaire.
Alors, je vais vous retourner la question. Quel est le rapport avec l'affect ?
Alors, l'affect, c'est l'affect
dans l'entreprise.
Je dirais, d'une classe sociale dont on a assez peu parlé jusqu'à présent, qui est celui des agriculteurs.
Oui.
Donc, quand j'étais petit, il y avait, je crois, 10 ou 12 millions d'agriculteurs en France. Aujourd'hui, il n'y a plus que 310 000 exploitations agricoles.
Oui.
Donc c'est une profession qui, comme vous le savez, donc, est une profession difficile. Hein. Ce sont des gens qui travaillent 12 ou 14 heures par jour, qui souvent ont des salaires de misère, qui sont aujourd'hui un peu, je dirais, victimes du green bashing. Bon, on leur reproche beaucoup de choses sur les questions écologiques alors qu'ils font énormément d'affaires, énormément d'efforts. Et on se demande pourquoi ces gens continuent. Parce qu'on a
il y en a beaucoup qui jettent l'éponge, d'ailleurs. Et
beaucoup jettent l'éponge, mais beaucoup de jeunes veulent absolument devenir agriculteurs. Pourquoi ? Parce que c'est un métier passionnant. Mm. C'est un métier, justement, où il y a une affect extraordinaire.
Une affect par rapport à quoi ?
Une affect par rapport au travail, par rapport à l'environnement,
mais entre,
par rapport aux animaux.
Ce sont des entreprises comme les autres, en fait, je suis d'accord.
Voilà, ce sont des entreprises comme les autres, mais qui ont en plus, je dirais, un supplément d'âme, puisqu'on travaille avec la nature, avec le vivant. On produit une richesse qui est, on s'en est bien rendu compte au moment du Covid et au moment de la guerre d'Ukraine, qui est essentielle, qui est la production agricole et alimentaire. Donc ça pose la question de la souveraineté de notre pays en matière agricole et alimentaire. Donc ce sont des gens formidables.
Mais ils sont très aimés.
Qui sont très aimés, mais qui sont aussi l'objet de critiques qui ne sont pas toujours très justifiées, parce que je peux vous dire qu'ils font des efforts énormes, effectivement, en matière d'écologie, et de même pour l'industrie agroalimentaire, puisque, comme vous le savez peut-être, l'industrie agroalimentaire utilise 70% de la production agricole française. Donc, nos entreprises, puisque moi j'ai fait toute ma carrière, enfin j'ai créé une entreprise dans les arômes pour l'industrie agroalimentaire, donc les entreprises agroalimentaires font énormément d'efforts pour produire des aliments de qualité, et la démarche RSE et l'affect aussi en entreprise joue
énormément.
Et
j'aime ma boîte, donc j'aime ma boîte. En fait, vous aimeriez que ça s'adresse aux agriculteurs, qu'ils se manifestent, que...
Bah pourquoi pas,
oui,
pourquoi
non, mais...
pas intégrer les agriculteurs à ce formidable... événement
que
de J'aime ma boîte, absolument.
Le moment, et vous êtes un bon ambassadeur de
tout
ça, mais je pense qu'on ne les considère pas suffisamment comme des entrepreneurs.
Tout à fait.
Or, ce sont des entrepreneurs.
Parce que aussi, le tissu est très éclaté. Hein. Enfin, je passe sous votre contrôle, mais c'est vrai qu'on a, comme les grandes entreprises du CAC 40, quelques grandes, très grandes exploitations, quelques grands groupes. Certains sont cotés, même. Enfin, on connaît Bonduelle, etc. Et puis, après, c'est des toutes petites.
Beaucoup, il y a à peu près 12 000 entreprises, beaucoup de PME.
Et puis, ils ne font pas beaucoup grève, je crois, ceux-là.
Comment ?
Ils font pas beaucoup grève, je pense.
Ils font pas beaucoup grève, ils font même pas du tout grève pendant la pandémie. Ils étaient même au boulot tous les jours pour assurer notre alimentation.
Quel est le rapport justement avec le domaine de Grignon ?
Alors,
il doit être associé à la démarche là, comme
absolument.
Vous dites,
le domaine de Grignon, donc, c'est ce projet de campus de la transition écologique où on veut faire discuter tous les acteurs de la filière, c'est-à-dire bien sûr les agriculteurs, mais aussi les transformateurs que sont les industriels, les distributeurs, puisque la grande distribution joue un rôle déterminant, et puis les chercheurs, les entrepreneurs et les étudiants, bien évidemment. Donc tous ces gens-là réunis sur un même lieu avec, on a 300 hectares, donc avec des laboratoires, un incubateur de start-up.
Et est-ce qu'il y a une psychologie particulière par rapport à justement, j'aime ma boîte, est-ce que ce centre a quelque chose de particulier dans le relationnel, dans donner un sens aux entreprises,
l'affection
sociétatis ?
On s'est rendu compte, parce que je dirais... L'idée, c'est aussi de créer des événements, donc un peu comme aujourd'hui, mais sur un lieu dédié, donc des colloques, des rencontres. Donc on s'est rendu compte que ce qui faisait la richesse de ces rencontres, c'était de pouvoir se frotter à différents milieux.
Bien sûr.
Donc si on est entre soi, on n'avance pas beaucoup. Par contre, si on est dans un lieu où on rencontre à la fois des ONG, des associations de défense des consommateurs, des organismes de recherche, des chercheurs, puisqu'il y a, des laboratoires, et on va faire venir des laboratoires de recherche, des start-upers. Donc si on rencontre tous cet environnement-là, je veux dire, c'est beaucoup plus passionnant que de faire un séminaire de direction dans un énième château-forme. Là, je veux dire, on apporte un supplément d'âme.
Prochain colloque éthique, peut-être sur le domaine de Grignon.
Quelle bonne idée. Très bien ici aussi.
C'est gentil. Merci Sophie de Menton. Je crois que vous êtes appelée, mais on vous retrouvera tout à l'heure pour la conclusion. Je passe à Frédéric Fougerat, donc expert en communication. Avec vous, on va s'interroger sur la place des relations humaines dans l'entreprise et leur évolution dans le temps. C'est votre thème de prédilection, Frédéric, place de l'entreprise.
L'évolution dans le temps, c'est peut-être pas mon thème de prédilection, mais l'humain, oui, c'est mon thème de prédilection, parce que l'entreprise, elle n'existe que s'il y a des humains.
Ouais. Alors, oui, il faut. On l'a bien vu d'ailleurs. On a parlé dans la table ronde précédente de beaucoup de télétravail, et on a vu que c'était un peu émietté, qu'il y avait des difficultés, et que même beaucoup d'entreprises faisaient désormais machine arrière pour faire revenir les gens et les refaire, sinon travailler, vivre ensemble.
C'est un vrai sujet, parce qu'il y a pas, alors je ne vais pas revenir sur le débat précédent, mais il n'y a effectivement pas de solution miracle, et il y a du positif et du négatif dans toutes les situations. Ça n'échappe pas au télétravail. Mais pour revenir à votre question, oui, l'humain, c'est peut-être quand même la chose essentielle. On dit souvent que la première richesse de l'entreprise, c'est son capital humain, mais il faut aller au-delà du discours et de la jolie formule. Il faut après l'appliquer au quotidien, le faire vivre, et surtout le faire ressentir, tant à ceux qu'on recrute qu'à ceux qui travaillent dans l'entreprise et qu'il faut aujourd'hui savoir préserver, puisque une des difficultés de l'entreprise aujourd'hui, c'est justement que les talents ou que les compétences, c'est deux choses différentes, n'échappent pas à l'entreprise. Et là, c'est dans l'action et non plus dans le discours que ça se passe.
Alors, j'allais justement vous poser la question, est-ce qu'il y a des bonnes recettes pour justement développer cet affect, par exemple en communication, qui est votre sujet? On a l'impression que, on l'a dit tout à l'heure dans le précédent débat, que quand on est en prise avec le patron, finalement, qu'on peut lui parler, qu'on peut communiquer avec lui, et qu'il y a une bonne communication aussi descendante, ça se passe beaucoup mieux.
Vous avez résumé avec le verbe communiquer. Si on peut communiquer, si on peut échanger, ça veut dire qu'on existe. Ça veut dire qu'on a une place, ça veut dire qu'on est considéré, ça veut dire qu'on est écouté, ça veut dire qu'on a un droit à la parole. Ça ne change pas le rôle du patron, qui est de décider. Le rôle du patron, c'est d'avoir une vision au début, puis c'est de décider à la fin. Mais pendant tout ce processus, il y a du travail, il y a de la collaboration, il y a de l'écoute, il doit y avoir de l'échange d'idées. Et si le collaborateur n'a pas sa place d'entreprise, s'il n'a pas un rôle, une mission précise, s'il n'a pas sa place dans l'organisation, c'est ce que je voulais dire plus tôt précédemment, s'il ne peut pas échanger, s'il n'apporte pas quelque chose, s'il n'est pas convaincu qu'il a été recruté parce qu'il est plus compétent qu'un autre pour faire son travail, un patron ne doit pas avoir peur de s'entourer de gens qui sont plus compétents que lui, sinon il n'a qu'à gérer son entreprise toute seule. Donc c'est toute cette considération qu'il va y avoir autour du collaborateur qui fait que tout d'un coup, et qui crée de l'affect, parce que nous sommes des humains. Je vous rappelle qu'on est dans une société qui vit au rythme des notifications des smartphones et où on s'envoie des cœurs et des likes toute la journée. Et bien, c'est cette considération qui fait que l'affect va être une valeur supplémentaire et va permettre justement de créer plus de liens, plus de force, probablement plus de motivation, probablement plus de performance aussi, et qui va permettre aussi de conserver ses collaborateurs.
On en est tous convaincus, et pourtant une des critiques qu'on entend le plus dans les organisations, dans les entreprises, c'est « mais on ne communique pas assez ». C'est-à-dire, le marketing avec les... C'est vrai, on a souvent l'impression que la communication est rompue, qu'il y a des choses qui ne vont pas, et pourtant, ce n'est pas faute de multiplier les réunions. Comment on fait quand on a cette impression qu'on ne communique pas ou pas assez?
Alors on utilise le verbe communiquer, non pas dans le sens promouvoir ou valoriser, mais dans le sens en fait échanger et collaborer.
Oui.
Comme le verbe communiquer est utilisé avec différents sens. Mais vous avez raison, on
entend les problèmes de communication, voilà, d'une manière générale.
Mais là, il s'agit plutôt de communication managériale ou en fait de collaboration entre les personnes. Mais on passe une des erreurs dans l'entreprise, et souvent plus les organisations sont importantes, plus elles aiment se réunir. Mais dans une réunion, s'il n'y a pas d'écoute active, collectif. Si chacun vient uniquement pour déverser ce qu'il a à dire et que quand une personne s'exprime, vous, vous n'attendez que votre tour pour dire ce que vous avez à dire, mais vous n'avez, il n'y a eu aucune écoute active, alors il n'y a aucune collaboration et vous perdez beaucoup, beaucoup de temps. Et ça, c'est extrêmement nocif au sein de l'entreprise. C'est coûteux, c'est nocif, c'est démotivant et ça ne fait pas avancer l'entreprise, ça ne l'aide pas à avoir des performances.
Et pourtant, on sait, hein, il y a beaucoup de formations, justement, il y a même des formations sur les réunions, arriver à l'heure, préparer l'ordre du jour, etc.
Mais elles sont certainement insuffisantes, en fait. Hein. On a des grands discours sur la formation, mais la réalité, qu'est-ce qu'on fait comme formation réellement dans l'entreprise ? On n'en fait pas tant que ça.
On fait réagir Joseph Taïfé, qui nous a rejoint, secrétaire général de Plast Alliance. Joseph, qu'est-ce que ça vous évoque, justement, ces, j'allais dire, problèmes de communication, mais non, justement, cette communication ?
Surtout la communication médiatique sur l'entreprise et d'une manière générale l'industrie. Il y a quelques temps, on avait entendu une représentante un peu de ce que Luc Ferry indiquait, les pastèques, de parler du droit à la paresse. Donc on est dans l'entreprise bashing aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'entreprise et même l'industrie depuis un certain temps est dénigrée. Ceux qui travaillent dans l'industrie sont considérés comme des pollueurs, quel que soit le type d'industrie. Après, on s'étonne qu'on trouve pas la main d'œuvre pour travailler ou qu'on n'arrive pas à communiquer. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le personnel, nous, on représente l'industrie plastique, mais j'ai envie de dire, ça pourrait être également sur le nucléaire ou sur d'autres types de secteurs, c'est qu'on fait des choses utiles pour aujourd'hui. Hein. Quand vous dites le pilier de la société, aujourd'hui, si vous enlevez le plastique, les hôpitaux y ferment, vous avez la plupart des supermarchés qui ne pourront pas produire effectivement des aliments et les conserver, vous avez les automobiles qui sont constituées de plastique, etc., qui ne pourraient pas rouler, etc. Pareil pour le nucléaire, donc aujourd'hui, après des années, on va dire, de nucléaire bashing qu'on a eu, les gens commencent à se rendre compte qu'effectivement, on avait une industrie qui était performante et écologique.
Et surtout moins cher.
Ça pourrait aider. Et surtout moins cher. Mais aujourd'hui, les salariés, dans la part de l'affect qu'ils ont, il y a ce côté un peu prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'en fait, à force de voir dans les médias qu'on leur dit tous les jours que l'industrie ou l'entreprise, c'est mal, votre patron est méchant. Sophie de Menton avait énormément communiqué sur la fameuse publicité sur mon patron me refuse le congé parental. Enfin, ça fait partie des mêmes, on va dire, de la même idéologie. C'est-à-dire qu'on a une attaque globale qui est pas du tout liée, on va dire, à notre sens, même à l'écologie ou à quoi que ce soit. C'est une attaque contre l'entreprise, contre l'industrie, contre ceux qui travaillent.
D'autant que le changement ou le progrès, par exemple, si on parle d'écologie ou de pollution, les solutions sont dans les entreprises. C'est vous qui les avez. Philippe Maurice qui décide justement de passer à des produits peut-être moins nocifs. C'est un progrès de toute façon par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans.
Je suis convaincue qu'on est une part de la solution.
Oui.
On a des problèmes collectifs et l'entreprise est une part de la solution à ces problèmes. Donc, dans le domaine écologique, je suis sûre que l'industrie du plastique investit beaucoup plus que les pouvoirs publics dans une nouvelle génération de plastique.
C'est vrai.
Donc, ne les mettons pas à part, parce qu'on se priverait de talents qui font avancer ce bien commun et cet intérêt général.
Ouais, on a le sentiment aussi parfois que l'entreprise, c'est une entité ex nihilo. C'est-à-dire que voilà, c'est l'entreprise, ça peut être, on ne va pas donner de nom, mais l'entreprise du pétrole, l'entreprise du tabac, etc. Soit le grand méchant loup, soit quelque chose qui vit sa propre vie sans qu'il y ait des gens à l'intérieur. Mais il faut quand même le dire, il y a quand même des hommes et des femmes qui travaillent au jour le jour, je pense, et qui ont conscience de toutes ces notions. Il y a même sûrement des non-fumeurs chez Philippe Maurice.
J'en suis une. Effectivement, ce qui m'a frappé là dans notre échange, c'est les propos de Frédéric sur la considération.
Oui.
Je pense que c'est vraiment le mot-clé pour générer de l'affect et faire qu'il y ait cette adhésion à un projet, collectif. On a parlé de télétravail, mais il y a aussi des nouvelles organisations de pilotage de projets. Nous, on travaille beaucoup en mode projet. Ça veut dire qu'on peut prendre un junior, mais qui a la pêche, qui a une capacité à générer de l'enthousiasme autour de lui, on lui donne un problème à gérer, il construit une petite équipe et il est chargé de trouver une solution au problème posé.
D'accord, il devient chef de projet.
Bien sûr, ça ne va pas être trouver la quatrième génération de réacteurs nucléaires, mais en revanche, ça va être très pragmatique et il va être reconnu par l'équipe qui l'a rejoint et qui le retrouve autour de ce projet, et la direction générale qui lui fait confiance, indépendamment de son statut, de son âge, de ses origines, pour trouver cette solution. Donc l'entreprise, c'est aussi ça, et je trouve qu'il faut le dire, au-delà de, des idées reçues.
Alors nous, on est sorti de 2 ans de pandémie où il n'y avait pratiquement plus d'échanges physiques. On pense que ça va être le grand retour quand même de l'échange physique et de la rencontre. Donc on est très convaincu que, comme Grignon, qui est encore une fois, je le répète, à une demi-heure de Paris, qui est un cadre merveilleux, il existe comme ça des endroits magiques où les gens vont vouloir se retrouver et surtout abandonner la langue de bois et rencontrer d'autres acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes idées. Donc c'est vrai que quand un industriel rencontre une ONG ou une association de consommateurs, le débat n'est pas toujours évident. Quand la FNSEA rencontre Foodwatch, par exemple, c'est vrai que c'est pas le débat n'est pas immédiat, mais on croit beaucoup que des lieux comme Grignon, des lieux un peu sacralisés, permettent de dépasser les contradictions et de s'écouter. Je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire comme vous disiez, c'est-à-dire il y a des moments où faut effectivement être certain de ses convictions, mais il faut aussi écouter les autres. Ouais. S'il y a effectivement, comme vous disiez, 11 millions de fumeurs aujourd'hui, il y a bien une raison pour laquelle, et il faut aussi écouter et ne pas être complètement sectaire dans son discours et ne convaincre que les gens qui sont déjà convaincus. Mm-hmm. Donc c'est un peu l'objectif de ce projet de lieu physique. Donc en plus, c'est
un lieu physique pour mieux s'écouter finalement.
Un lieu physique, voilà, pour mieux s'écouter et surtout pour rencontrer tous les acteurs d'une même problématique, qui est là, la transition écologique et alimentaire.
D'autant qu'on est de plus en plus, on a l'impression dans une société voilà, où on est dans la culture de la petite phrase, du clash, les réseaux sociaux, où on développe sur un peu plus de 180 caractères maintenant, par exemple, sur Twitter, mais quand même, on reste dans cette instantanéité, ce tribunal aussi, des
et
fois, un petit peu populaire.
Et on tient beaucoup à ce que, sur le même site, on trouve des gens, des étudiants qui ont une vingtaine d'années, des chercheurs qui ont 30 ou 40 ans, des chefs d'entreprise qui ont peut-être comme moi, je dirais un peu plus de bouteilles. Donc aussi, cette rencontre intergénérationnelle est très importante parce que c'est vrai qu'il y a des problématiques nouvelles. Enfin, moi, quand j'étais jeune, l'agriculture, pour moi, c'était vraiment une agriculture productiviste. Il fallait, à la sortie de la guerre, produire et nourrir les Français. Aujourd'hui
on parle bio, biodiversité.
Tout ça évolue et c'est très important de faire rencontrer des gens très jeunes et des gens plus âgés pour qu'il y ait vraiment un échange constructif. Ouais.
J'ai eu un sujet comme ça il n'y a pas longtemps, il y a quelques années quand même, plus on communique, moins on est informé. Bon, ça c'est plutôt sur l'information, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui on a tellement de moyens de communication, des fois on s'écoute même plus, et comme disait Hervé à l'instant, voilà, on va rester dans son courant de pensée. D'ailleurs, on reçoit uniquement des notifications ou des articles parce que on est ciblé, donc on en reçoit plus, on a l'impression qu'on a raison puisqu'on est finalement, on n'a pas forcément de voix contradictoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Fougerat?
On a souvent surtout pas conscience de sa propre ignorance. Donc en fait, on communique en pensant avoir une connaissance, une expertise sur un sujet, alors qu'en fait, on ne fait que partager une opinion, donc qui n'a une valeur que très personnelle. Mais effectivement, on est dans un monde de l'infobésité où il faut savoir sélectionner la bonne information, ses bonnes sources. Et c'est également vrai dans l'entreprise, mais l'entreprise qui est très factuelle, qui est quand même très organisée, elle inspire aussi confiance, parce que dans l'entreprise, on sait qu'il y a des sachants, il y a des experts, il y a des gens qui ont une pratique, une expertise. C'est des personnes qui inspirent tout court et qui inspirent la confiance aussi.
Mmh. Vous disiez tout à l'heure, ouais, peut-être qu'en revanche, la formation est un petit peu délaissée. On y revient. On pourrait se servir justement de cette connaissance. Parce que la matière grise, au final, les experts, ils sont dans les entreprises. Ils ont souvent des années de boîte, comme on dit. Ils sont experts de leur sujet, ils l'ont travaillé. Du coup, c'est là aussi qu'on pourrait avoir cette formation même intergénérationnelle.
Mais j'ai peut-être un discours caricatural ou trop généraliste sur la formation, mais moi, ça fait 37 ans que je bosse, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir été confronté à des propositions de formation utiles. J'ai eu l'impression d'être confronté au fait de devoir remplir des quotas de formation, d'utiliser des budgets de formation.
Est-ce que vous avez eu la formation PowerPoint pour les nuls, des choses comme ça?
Mais pas de formation utile, ni pour moi, ni pour mes collaborateurs d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a un vrai problème de formation. On ne forme pas les managers. Le manager, on oublie que ce n'est pas qu'une fonction, c'est pas un grade, c'est un métier. Mais quelles sont les entreprises qui réellement forment leurs collaborateurs à devenir des managers et quand ils sont des managers, à le rester durablement et être de bons managers? En tout cas, je n'ai pas eu la chance de croiser ces entreprises. Et de façon générale, on voit que les managers le sont plus à l'ancienneté. Oui. Alors qu'il y a des gens qui sont des experts extraordinaires dans leur métier, qui sont des piètres managers.
Il y a des gens qui propulsent manager et qui sont très malheureux.
Mais exactement, il y a des gens qui ne veulent pas être manager parce que ce n'est pas leur façon d'être, ça ne leur ressemble pas, mais parce qu'ils ont tel niveau d'expérience, tel niveau d'ancienneté, alors ils deviennent le patron de leur propre équipe. On devrait au minimum les former ou en tout cas détecter le fait que ce ne soient pas forcément les bonnes personnes pour devenir des managers.
Réaction, Joseph, Natacha, justement sur cette formation, peut-être c'est au cœur du sujet. On le disait tout à l'heure, les métiers sont en pleine transformation chez les plastaliens, dans ces métiers de la plasturgie. Aujourd'hui, on est pratiquement obligé. Et alors pour le coup, il vaut mieux sur une machine outil faire une formation utile.
Tout à fait, mais vous avez tout à fait raison. Il y a pas assez, on va dire, de formation des managers. Ça, c'est un constat. Mais il y a aussi pas autant de gens qui veulent devenir managers. Hein. C'est-à-dire qu'on a, et on le voit dans le cadre, par exemple, quand il y a une évolution de poste avec ce qu'on appelle des périodes probatoires, paradoxalement, on a plus souvent les salariés qui demandent à revenir, en fait, à leur poste antérieur plutôt que l'employeur qui estime que le salarié n'est pas compétent pour le faire.
C'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on entend? On entend effectivement, j'ai été promu, alors certes, peut-être, mais pas forcément avec un gap de salaire formidable, j'ai beaucoup plus de responsabilités, je fais beaucoup plus d'heures, et puis si ça se passe mal, je suis en première ligne aussi.
On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est... Parfois, le train-train quotidien, c'est agréable. Hein. C'est pour certains. Certains ne veulent pas changer. Il y a aussi tout le côté relationnel aussi en termes de leadership. Hein. C'est-à-dire quand vous prenez quelqu'un qui est depuis des années dans l'entreprise par rapport à d'autres collègues et qui évolue, il a du mal aussi à affirmer son autorité. Et les autres aussi ne le reconnaissent pas forcément aussi. Hein. Il y a toujours ce problème-là, d'où parfois l'initiative d'aller chercher des recrutements extérieurs. Donc il y a vraiment toute cette problématique-là. Mais c'est vrai que la partie formation est quand même un vrai sujet. Hein. Je le redis, les comptes formation aujourd'hui, même des salariés, ils ne l'utilisent pas pleinement, ils ne savent pas trop, ils ne connaissent pas. Enfin, je veux dire, on ne peut pas leur jeter la pierre. Le système de formation en France est très mal géré. Enfin, on peut le dire. Enfin, il est d'ailleurs géré, malheureusement, je le dis honnêtement, par les syndicats. C'est aujourd'hui un vrai problème.
Hein. Et les jeunes ne connaissent pas toujours très bien les entreprises. Je vois, par exemple, à l'école d'ingénieurs AgroParisTech, vous avez certainement vu ce buzz qui a fait le tour des réseaux sociaux, donc des étudiants qui veulent bifurquer parce qu'ils ne veulent plus travailler dans les grands groupes, qui manquent de sens. Bon, on peut les comprendre, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment tout le pouvoir de création des entreprises, et en particulier des entreprises qui créent l'alimentation dont on a besoin? Donc ça aussi, il y a peut-être aussi, parce que j'ai été pendant 20 ou 25 ans administrateur de l'ANIA, qui est la structure de la Fédération des industries agroalimentaires. Et c'est vrai qu'on n'a jamais réussi vraiment à communiquer auprès des jeunes, parce que la tâche est immense, sur ce qu'étaient nos industries et je dirais la raison d'être de nos industries. Et c'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, on a des réactions très fortes de jeunes qui ne se reconnaissent plus dans les entreprises auxquelles on les destine. Et encore une fois, pour revenir sur Grignon, c'est pour ça qu'on s'attache beaucoup à ce qui est sur le même campus, à la fois des étudiants qui peuvent aussi vouloir bifurquer, comme on dit, et puis des entreprises, des entrepreneurs, des grandes entreprises, des petites entreprises. Donc il faut que tout cet écosystème-là puisse se retrouver sur un lieu, encore une fois, qui est un lieu... Je vous invite à venir découvrir ce lieu à Grignon, près de Versailles, qui est un lieu magique, où effectivement, là, on retrouve un peu ses racines et qui permet un dialogue très constructif.
Rendez-vous est pris.
Oui, j'ai juste un point à rajouter par rapport à ce que vous dites, Hervé, c'est qu'aujourd'hui, on a un entrisme, je suis désolé de le dire, d'une certaine idéologie au niveau de l'éducation nationale, au niveau des écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous dites que les jeunes, aujourd'hui, effectivement, on n'arrive pas à communiquer, c'est parce qu'en fait, il y en a d'autres qui ont beaucoup mieux communiqué que nous. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes dont vous parlez, mais même des petits-enfants aujourd'hui, dès quasiment maintenant, on va dire, la primaire ou le collège, on leur dit effectivement, telle industrie, tel produit, c'est pas bien, etc. Enfin, il y a tout un entrisme idéologique qui a été fait, et que malheureusement, alors guère nous, on leur demande pas forcément de ne pas le faire, on demande juste d'être à armes égales, c'est-à-dire de laisser aussi les entreprises de pouvoir aussi venir voir les jeunes, de pouvoir aussi également leur montrer ce qu'on sait faire. Et aujourd'hui, malheureusement, on a, on va dire, une éducation nationale qui sélectionne, on va dire, les moyens pédagogiques qui sont mis en œuvre. Et nous, aujourd'hui, les entreprises souhaiteraient justement être plus en contact avec justement les jeunes enfants pour pouvoir aussi leur montrer les bienfaits et le caractère pilier justement des
c'est
sociétés.
Vrai, avec une dévalorisation souvent des métiers manuels, métiers techniques, alors qu'ils sont en train de se transformer, que même un agriculteur, c'est un agriculteur 2.0, on peut le voir par exemple, alors une fois par an, selon l'agriculture. Alors beaucoup de réactions, Natacha d'abord.
Oui, moi je pense que les entreprises doivent être aussi très claires sur leurs projets. On ne peut pas vouloir recruter si on n'a pas un projet qui est annoncé derrière. Donc c'est aussi aux entreprises d'annoncer très clairement des horizons à moyen terme 2025 et au-delà. Et comme ça, on permet une adhésion et il y a une attractivité. On sait pourquoi on vient. On ne vient pas seulement pour accomplir une tâche et percevoir un salaire. On vient parce qu'on est contributeur d'un projet général qui nous dépasse. Et donc, nous, Philippe Maurice, c'est une marque employeur, on peut imaginer, qui n'est pas la plus attractive d'un point de vue spontané. En revanche, en annonçant que d'ici 2025, on veut réaliser plus de 50% de notre chiffre d'affaires en dehors de la cigarette, on montre bien une trajectoire, une volonté, un point d'atterrissage qui permet aux nouvelles générations et aux plus anciennes comme la mienne d'y trouver un sens et une direction. Moi, je sais pourquoi tous les jours, je me lève et je vais travailler, au-delà des deux considérations un peu plus terre-à-terre que j'évoquais. Donc ça aussi, je pense que les entreprises doivent affirmer, s'y tenir, se poser sous le regard des autres. Nous, on est une entreprise cotée, donc on ne peut pas annoncer ça comme un slogan publicitaire. On va nous attendre au tournant sur le résultat. Donc, ces 50% de chiffre d'affaires, on va devoir les atteindre sous risque de sanctions dramatiques sur les marchés financiers. Donc, c'est aussi ça, le rôle de l'entreprise.
C'est pas un message facile, parce que on a pas mal de contacts avec le groupe Total Energy, qu'on aimerait bien associer à notre projet, mais les étudiants nous disent, mais oh là là, attention, Total, c'est l'énergie fossile. Et quand on leur dit, oui, mais attention, Total veut rebondir, comme on dit, vers les énergies renouvelables, et qu'il a besoin de moyens financiers pour faire cette diversification, ils ne comprennent pas.
Alors avec des jalons, une objectivation, on arrive à matérialiser cette volonté. Je pense qu'aussi, il faut qu'on s'engage, nous, entreprises, sur des objectifs tangibles et pas seulement sur des incantations à être meilleurs.
Ce sont des discours qui sont difficiles à tenir parce qu'on est face à des populations qui sont très impatientes, qui veulent des résultats immédiats. Et quand on leur dit qu'un groupe comme Total sera peut-être dans 20 ou 30 ans le leader européen des énergies renouvelables, ils n'y croient pas. Parce qu'ils veulent des résultats de demain matin.
Et pourtant, dans les chiffres, c'est déjà le premier investisseur.
Ah oui, absolument. Et on a beaucoup de mal à les convaincre.
Frédéric Fougera, réaction également.
Je vais réagir au propos précédent sur la mauvaise image ou l'image parfois dégradée ou insuffisamment valorisée de l'entreprise, juste pour rappeler qu'il y a un homme dans les années 80 dont le message a été un peu brouillé ensuite parce qu'il a fait de la politique, il a été dans le monde du sport, dans le monde de la finance, mais Bernard Tapie, c'est quand même une personne qui a beaucoup contribué à valoriser l'image de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des personnes qui peuvent porter ce message-là. Après, il ne faut pas être non plus multitâche parce que ça risque de brouiller le discours. Mais ça a quand même été une personne qui a été très utile pour l'image de l'entreprise et des entrepreneurs.
C'est vrai, avec un côté un petit peu sulfureux.
Très clivant, très sulfureux, mais parce qu'il s'est...
Il s'est diversifié. Voilà, exactement. Non, après, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la place des champions, même des héros un petit peu comme Steve Jobs, des valeurs. C'est vrai qu'on les voit plus du côté des États-Unis, des start-upers comme ça, qui sont par des réussites effectivement brillantes. Ça commence à arriver aussi en France. On voit Babacar, Frédéric Mazzella, on voit effectivement des licornes qui apparaissent et qui sont plus sympathiques finalement que le patron, pourtant de formidable réussite, Bernard Arnault, François Pinault, etc. Mais c'est vrai qu'on a encore du mal à peut-être valoriser en termes de communication. Là, je vous interroge, vous qui êtes un pro de la com, qu'est-ce qu'on peut faire pour redorer le blason aussi? Parce que c'est important aussi d'être que cette entreprise, si on veut avoir de l'affect, qu'elle soit incarnée.
Mais il y a vraiment une question de culture. Entre la culture anglo-saxonne et la culture latine, on a des comportements très différents face à la réussite, face à l'argent. Chez les anglo-saxons, afficher sa réussite, afficher son salaire, c'est quelque chose de très valorisant. Et c'est montrer ce que l'on sait faire, ce n'est pas montrer à l'autre qu'il serait inférieur parce qu'il n'a pas votre réussite. On est dans les pays latins comme en France, dans une culture un petit peu différente où on préfère vivre caché, gagner de l'argent, c'est éventuellement honteux. Si on a gagné de l'argent, c'est qu'on aurait volé quelqu'un, c'est pas parce qu'on a réussi quelque chose. Donc au niveau de la communication, c'est beaucoup plus compliqué parce que...
C'est une mentalité.
C'est une question de mentalité et de culture profonde.
Est-ce que ça évolue un petit peu, vous avez l'impression, les uns et les autres?
Vous l'avez dit, en fait, dans votre question, vous évoquiez cette évolution. Il y a une nouvelle approche des nouveaux entrepreneurs.
Non, j'ai l'impression que grâce aux start-upers, finalement,
c'est possible.
Voilà, on peut dire ce qu'on veut de la start-up nation, mais ça a infusé quand même. On se dit, ah, on est capable par rapport à un French bashing. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'entreprise bashing ou d'industrie bashing. On a l'impression qu'aujourd'hui, tiens, on est fier aussi. On commence à être fier, un peu plus fier de nos belles réussites tricolores.
Parce que les start-upers sont, entre guillemets, des petits. Donc, le petit est gentil, c'est le gros qui est méchant chez nous. Donc, le petit est gentil. S'il devient très gros, à mon avis, tout d'un coup, il deviendra un peu moins sympathique. Mais on est quand même dans une évolution, vous avez raison.
En résumé, en conclusion, il nous reste quelques minutes. Là, on voit que l'entreprise pilier de la société, ça, je pense qu'on est bien d'accord. C'est là où on se retrouve, c'est là où on peut servir. Alors, sinon, bien commun, en tout cas, on a compris. Inscrire une trajectoire dans lequel on se sent bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'être dans une entreprise qui est critiquée. Je pense aussi par exemple, on parle beaucoup de Total, y a ceux qui font la grève, mais enfin, il y a je sais pas combien de milliers de salariés en France et dans le monde, ils sont peut-être pas tous à mettre dans le même panier, et puis eux-mêmes il y en a sûrement qui sont fiers, et je pense que c'est la majorité. Les uns et les autres, là, qu'est-ce que vous pensez justement de cette notion au-delà de l'affect, hein, de se dire on a parlé de sens commun, on a parlé de formation. Du coup, pour vous, Natacha, vous nous avez bien expliqué, l'idée c'est qu'il faut un cap, il faut une direction, il faut que finalement la société et ceux qui l'incarnent soient très clairs sur le projet.
Sur le projet et prendre en compte toutes les parties prenantes et permettre qu'il y ait cet alignement d'intérêts communs. Donc avec l'interne, avec l'externe, j'étais sensible quand monsieur exprimait aussi le rôle de l'entreprise. Le rôle de l'entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs. C'est tout ce microcosme qui conjointement va concourir à l'intérêt général.
Ouais, on parle même d'écosystème, de la même façon qu'un écosystème vivement, l'entreprise, de toute façon. Hervé Le Sel, justement.
Et surtout, je pense que encore une fois, j'y reviens, j'insiste, d'avoir quelques lieux magiques comme ça, où les gens prennent le temps, parce qu'à Grignon, l'idée c'est de faire des rencontres, non pas comme ça en une heure, deux heures, mais carrément une journée, voire deux journées, passer des soirées ensemble, discuter très profondément avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Et je pense que c'est ça qui est important dans notre vie d'aujourd'hui, c'est d'avoir cette capacité d'écoute sur une période relativement longue. Donc arrêtons ces visios Teams, Zoom, etc., où on passe d'un truc à un autre sans approfondir. Passons le temps qu'il faut pour vraiment rencontrer des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est ça l'objectif de Grignon 2000.
Tiens, ça rejoint le titre du bouquin de Frédéric Fougerat, qui est tout nouveau, non, vient de sortir.
Non, c'est mon dernier sur le management, mais il a deux ans.
D'accord, il a deux ans. Mes recettes de manager, être manager, vous dites, c'est accepter d'être une référence. Du coup, s'il a deux ans, vous l'avez écrit en plein Covid ou pas loin?
Juste avant.
Juste avant. Un petit mot, justement, sur là, les recettes de manager. Et cette phrase, être manager, c'est accepter d'être une référence.
Mais oui, accepter d'être une référence, c'est prendre conscience que quand on est manager, on est un exemple et que donc on doit être aussi exemplaire. Ça fait partie aussi de la considération dont on parlait tout à l'heure. L'entreprise, c'est une collectivité humaine. Si on veut embarquer tout le monde dans cette aventure humaine, il faut avoir de la considération pour les autres et il faut que les autres en aient pour vous, et pour qu'ils en aient pour vous, il faut que vous soyez exemplaire. Et pour être sur la thématique de la journée, sur j'aime ma boîte, eh bien, si vous voulez que vos collaborateurs aiment votre boîte, il faut aussi leur montrer que la boîte les aime et donc les considère.
les aiment, les forment, les encouragent évidemment, sans tomber non plus dans le paternalisme, on est bien d'accord. Un grand merci aux unes et aux autres. Frédéric Fougera, donc, je rappelle que vous êtes expert en communication, donc auteur de plusieurs ouvrages sur la communication et donc sur le management. Merci à Hervé Le Seine, co-président de l'association Grignon 2026. Rendez-vous donc à Grignon, à 15 km de Versailles. Rendez-vous est pris. Merci à Natacha Pouget, senior manager des engagements extérieurs chez Philippe Maurice. Et enfin, Joseph Taïfé qui nous a rejoint, secrétaire général de Plast Alliance. On termine cette deuxième table ronde. Dans un instant, ce sera l'heure de la conclusion déjà de ce colloque éthique. On retrouvera Sophie de Menton et Olivier Babot. À tout de suite.